franceinter.fr.
Sébastien Paour pour le journal. Bonsoir Sébastien.
Bonsoir à tous. La fermeté plus que l'humanité. Emmanuel Macron défend son projet de loi immigration à Calais, dit sa confiance aux forces de l'ordre et accuse les associations de mensonges. Son discours est ce qu'en pensent ceux qui aident les migrants dès le début du journal. La ministre de la Justice derrière les barreaux de Vendin-le-Vieil, Nicole Belloubet fait des promesses aux gardiens de prison agressés. Au sommaire également ce soir, le Parlement européen qui veut interdire la pêche électrique. Le PDG de Radio France, poussé à la démission par la ministre de la Culture, Mathieu Gallet, entend rester en poste. Les questions sur la maison de l'horreur en Californie, 13 enfants séquestrés par leurs parents. Les Russes, qui boivent moins. Et au téléphone sonne, Fabienne.
Eh bien, ce téléphone sonne ce soir, les revenantes, ces femmes qui sont parties en Syrie. Et maintenant, elles sont 300 à avoir fait le voyage depuis 2012. Mais savons-nous gérer leur retour? Comment faire avec les enfants, ceux qui sont nés ici, ceux qui sont nés là-bas? Est-ce qu'elles sont aussi dangereuses que les hommes? Faut-il en avoir peur? Nous sommes en partenariat avec France 2 ce soir qui y consacre aussi sa soirée. Pour nous, c'est comme d'habitude 01 45 24 7000.
France Inter.
Pas évident de concilier accueil et fermeté. Alors Emmanuel Macron est venu privilégier le sécuritaire à l'humanitaire aujourd'hui à Calais, ville symbole de la crise migratoire des dernières années, où il ne laissera pas se reconstituer une jungle. Rencontre avec des migrants et discours devant des policiers pour leur redire sa confiance et défendre le futur projet de loi asile et immigration très critiqué. Bref, Laurence Perron, le chef de l'État, défend ses choix et les forces de l'ordre.
Chef de l'État, chef des armées, garant de l'ordre républicain, c'est sur un mode martial qu'Emmanuel Macron s'est adressé aux gendarmes et policiers de Calais.
Je ne peux pas laisser accréditer l'idée que les forces de l'ordre exercent des violences physiques, confisquent des effets personnels, réveillent les personnes en pleine nuit, utilisent du gaz lacrymogène sur des points d'eau ou au moment de la distribution des repas. Si cela est fait, c'est contraire à toute déontologie. Si cela est fait et prouvé, cela sera sanctionné.
La contrepartie est la suivante.
Je ne tolérerai jamais que l'on travestisse la vérité. Face à ces dénonciations, faites sans éléments de preuve et non portées à la connaissance de la justice, soit les faits dénoncés ne sont pas avérés et relèvent de la diffamation, la réponse de l'État sera claire. Saisir la justice en cas de diffamation ou d'injure et apporter tout le soutien juridique aux préfets et aux forces de l'ordre. En la matière, il n'y a pas de demi-vérité.
Aux associations qui contestent sa politique d'un asile digne mais responsable, il retire le droit d'organiser des distributions de nourriture lorsqu'elles créent des points de fixation pour les réfugiés.
Mais notre honneur n'est pas simplement d'avoir des déclarations faciles, non pas une situation d'expédient, la promotion de l'illégalité, l'impasse.
Enfin, chef de file d'une Europe qui doit prendre à bras-le-corps la question migratoire, il souhaite un office européen de l'asile et remettre sur la table notamment les accords du Touquet. À Calais, Gilles Gallinaro, Laurence Perron, France Inter.
Emmanuel Macron promet aussi que le monsieur réfugié attendu depuis l'été dernier sera nommé la semaine prochaine. La France a délivré 262 000 titres de séjour à des étrangers en 2017. C'est 13% de plus sur un an. Une hausse qui s'explique par l'augmentation de 35% des titres accordés à des réfugiés. Alors que pensent les associations de Calais et de sa région, de cette visite présidentielle? Rien de très bon, Julie Pietri. Elle s'étonne surtout que l'État prenne en charge la distribution de repas aux migrants à leur place.
De l'entrepôt s'échappent des odeurs de curry. À quelques kilomètres du centre de Calais, plusieurs associations françaises et anglaises rassemblent chaque jour dans un gigantesque hangar pommes de terre, épices, lentilles, pain qu'elles cuisinent et distribuent aux migrants. La mise aux normes de l'installation a coûté, disent-elles, près de 100 000 euros. Julie est étudiante à Sciences Po et bénévole pendant ses vacances.
On fait le petit-déj, le déjeuner et le dîner. S'ils pensent mieux faire, qu'ils fassent.
En cuisine, les bénévoles n'ont pas écouté le discours d'Emmanuel Macron, pas le temps. À l'extérieur, Charlotte, d'Utopia 56, a du mal à digérer.
Ça fait mal en fait, parce qu'on fait un énorme travail et c'est pas reconnu à sa juste valeur. Et voilà, c'est un peu l'absurdité de Calais.
Le prix de revient d'un repas, matières premières et tous les frais, l'entrepôt, etc., les distributions, ça coûte 1 euro par repas. L'État, quand il le fait, il est plutôt à 4 euros et demi.
François Guénoc est l'un des représentants de l'auberge des migrants.
C'est pas une mauvaise idée. Nous, en fait, le travail qu'on fait, c'est le travail que l'État ne fait pas. Il y a eu quand même quelque chose qui nous a fait sauter en l'air quand on a été accusé de donner de la fausse information aux migrants pour les inciter à rester à Calais. Alors ça, c'est complètement faux. Nous, le jour où le gouvernement trouve une solution humaine pour qu'il n'y ait plus de migrants à Calais, il n'y a pas de problème, on arrête nos activités, on partira en vacances, on en a besoin.
Ce soir, en attendant plus de détails sur les mesures annoncées, en surveillant aussi les suites de la plainte qu'il a déposée avec d'autres associations pour destruction de de biens tentes et bâches par les forces de l'ordre, la cuisine tourne encore à plein régime. À Calais, Julie Pietri, France Inter.
Et plusieurs intellectuels, dont des soutiens de la première heure d'Emmanuel Macron, signent aussi une tribune dans Le Monde pour regretter une politique d'immigration qui contredit la vocation historique d'humanisme qui fait la fierté de la France. Parmi les signataires, l'économiste Jean Pisani-Ferry, le président de Terra Nova, Lionel Zinsou, ou le patron de la CFDT, Laurent Berger.
Emmanuel Macron donc en visite à Calais, Nicole Belloubet en prison.
La garde des Sceaux a passé 5 heures à Vendin-le-Vieil, dans le Pas-de-Calais, où 3 gardiens ont été agressés par un détenu islamiste la semaine dernière. Et alors qu'on apprenait 2 autres agressions de matons à Tarascon et Mont-de-Marsan. À la sortie, la ministre de la Justice promet de revenir dans 2 mois et elle fait 10 propositions aux surveillants. Visite suivie pour Inter par Claire Mesureur de France Bleu Nord.
Des moyens financiers, madame la ministre, des moyens humains.
Quelque peu chahutée à son arrivée, Nicole Belloubet doit d'abord contourner le feu de palette allumé devant l'entrée avant de pouvoir pénétrer dans le centre pénitentiaire. Elle visite d'abord l'établissement avant de rencontrer les 4 gardiens victimes de l'agression de la semaine dernière. Et vers 11h30, le ton monte d'un cran. Elle ne leur aurait proposé qu'une simple augmentation d'échelon.
On doit bloquer la ministre. Là, on est pris vraiment pour des cons.
Et puis, la tension retombe. Pendant plus de 2 heures, la garde des Sceaux rencontre les représentants syndicaux. Et elle leur fait pas moins de 10 propositions très concrètes. Des équipements individuels de protection ou des aménagements de sécurité, par exemple. Mais à sa sortie, Julien Martin, délégué FO, demande à voir.
Je suis comme Saint Thomas, je ne crois qu'en ce que je vois. Donc quand on aura reçu les équipements qu'elle nous a soi-disant promis et quand on verra les changements et la modification du fonctionnement de l'établissement et de voir si vraiment les personnels reprennent autorité sur la coursive, là par contre je la croirai.
Et même si elle n'a signé aucun engagement écrit, Nicole Belloubet tient à rassurer les personnels à sa sortie. Elle suit le dossier de très près.
C'est acté, ma parole vaut un écrit, je puis m'y engager et si je m'engage à quelque chose, je puis vous assurer que ce sera fait et que le 16 mars nous ferons ensemble le bilan. Absolument.
La garde des Sceaux reviendra donc le 16 mars. En attendant, les personnels restent mobilisés.
Et Nicole Belloubet sera l'invitée d'Inter demain à 8h20.
C'est une technique qui décime les espèces et qui détruit les fonds marins, selon ses opposants.
Le Parlement européen demande l'interdiction de la pêche électrique qui déloge les poissons du fond de la mer grâce à une décharge électrique pour les ramener souvent estropiés dans les filets. Le Parlement s'oppose par 402 voix contre 232 à la dérogation proposée par la Commission qui veut, elle, autoriser cette pratique sur une zone plus vaste que le sud de la mer du Nord. Première victoire donc pour les eurodéputés et les associations opposées à la pêche électrique. Mais le Parlement doit encore négocier avec le Conseil qui représente les États et la Commission, Annie Vogel.
On pensait que le vote serait serré. Finalement, c'est avec 170 voix d'écart que le Parlement européen se prononce pour un retour à une interdiction totale de la pêche électrique contre l'avis de sa propre commission de la pêche, Isabelle Thomas, du groupe socialiste.
C'est une vraie victoire qui n'était pas gagnée d'avance puisque la Commission européenne, au départ, voulait une généralisation totale dans toutes les eaux européennes de la pêche électrique. Et on préservera aussi la capacité pour les pêcheurs de continuer à prélever une partie de cette ressource qu'ils il est tout à fait agréable d'avoir dans nos assiettes.
Reste maintenant à en convaincre les États membres, à commencer par la France, qui était sur une position plus souple que ses eurodéputés. Alain Cadec, président de la Commission de la pêche.
C'est vrai que Stéphane Travert, notre ministre, il était plutôt sur la proposition qui permettait de maintenir 5%, mais vraiment 5%, pas davantage. Et puis de limiter dans la partie sud de la mer du Nord. Maintenant, aujourd'hui, grâce à nos voix, c'est l'interdiction totale qui est passée. Donc la France devra, j'espère, en tous les cas, défendre cette position.
Ce ne sera évidemment pas celle défendue par les Pays-Bas, furieux de ce vote qui constitue une menace pour une partie de leurs pêcheurs. 28% de leur flotte pratique la pêche électrique, essentiellement des pêcheries industrielles puissantes. Strasbourg, Anya Vogel, France Inter.
Le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes sera peut-être abandonné demain. Le gouvernement doit se prononcer avant la fin du mois, mais l'Élysée aurait déjà prévenu des élus d'une décision dès cette semaine. Quelle qu'elle soit, le Premier ministre prend les devants devant les députés En Marche. La réponse sera jugée mauvaise dans tous les cas, prévient Édouard Philippe.
C'est la traditionnelle photo de la France par l'INSEE.
Et que révèle-t-elle cette photo? Eh bien que le pays vieillit et fait de moins en moins de bébés. Nous sommes un peu plus de 67 millions d'habitants au 1er janvier, 233 000 de plus qu'en 2017. Mais le nombre de naissances baisse pour la troisième année consécutive. 767 000 bébés l'an dernier, 17 000 de moins qu'en 2016. Autre étude, celle de la direction de la recherche, de l'évaluation et des statistiques. Bonsoir Daniel Messager.
Bonsoir.
Étude qui nous apprend, elle, que l'espérance de vie en bonne bonne santé est stable en France depuis 10 ans.
Eh oui, car la vieillesse n'est pas forcément un naufrage, encore faut-il être en bonne condition physique. C'est ce qu'on appelle l'espérance de vie en bonne santé sans incapacité physique. Alors pour les femmes, cette espérance va jusqu'à 64 ans et 1 mois. Pour les hommes, de 62 ans et 7 mois. Ça veut dire qu'au-delà, eh bien, on commence à avoir quelques ennuis de santé qui peuvent handicaper la vie quotidienne, puisque ce sont ces critères d'évaluation de la vie quotidienne qui signent une plus ou moins bonne santé. Les déplacements, les mouvements, tout ce qui va concerner l'autonomie. Ça va de pouvoir faire ses courses jusqu'à voyager sans avoir besoin d'une aide. Et ce sont des critères qu'on prend en considération pour la gestion des âges de départ à la retraite. Alors ces chiffres, effectivement, sont stables depuis 10 ans en France, qui occupe une place moyenne en Europe. Mais en Suède, par exemple, ou à Malte, on vit plus longtemps sans handicap. Il y a donc un effort de prévention à faire sur ces années. En revanche, l'espérance de vie dans sa globalité reste élevée. Chez les Français, 79 ans et demi et excellente deuxième place chez les Françaises, avec 85 ans et 3 mois, seulement devancée de quelques mois par les Espagnols.
J'en parlerai à Alain Passerelle. Un peu moins longue depuis l'an dernier, l'espérance de vie en politique. Voici le retrait du jour dans ce milieu. Celui du patron des sénateurs socialistes, Didier Guillaume. Le sénateur de la Drôme présidait le groupe socialiste du Sénat depuis 2014.
Il est 19h11 sur France Inter. La ministre de la Culture pousse le président de Radio France vers la porte.
Françoise Nyssen met en avant le devoir d'exemplarité des dirigeants d'entreprises publiques. Et elle appelle Mathieu Gallet à tirer les conséquences de sa condamnation pour favoritisme quand il était à la tête de l'INA. 1 an de prison avec sursis, on en parlait hier soir, il a fait appel. Bonsoir Alexandra Hacoun.
Bonsoir Sébastien.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel se penche sur la question demain et en attendant, Mathieu Gallet maintient qu'il reste à son poste.
Oui, pour le faire savoir, Mathieu Gallet a annulé le conseil d'administration qui devait avoir lieu cet après-midi. À la place, il a reçu les administrateurs maison, puis les patrons de chaîne et enfin les syndicats de Radio France. Pour le leur dire de vive voix, il ne bougera pas de son poste. Pourquoi ? Réponse par son avocat, maître Christophe Ingrin.
Il n'y a aucune raison pour que Mathieu Gallet démissionne. Il a été fait appel de la décision qui a été rendue hier par le tribunal correctionnel, ce qui signifie qu'il est toujours innocent et que dire aujourd'hui qu'il est condamné, c'est violer la présomption d'innocence. Il est exactement dans la même situation qu'avant la première audience.
Pas question donc de céder à la pression politique. Mathieu Gallet laisse au Conseil supérieur de l'audiovisuel le soin de se prononcer sur son cas. Il se réunit demain en assemblée plénière. C'est lui qui a désigné Mathieu Gallet. Lui seul a le pouvoir de le révoquer. L'interview de Françoise Nyssen au Monde ce matin était à cet égard on ne peut plus clair. Les sages, eux aussi, sont sous pression. Une façon de faire qui scandalise Jean-Paul Quenesson, délégué Sud à Radio France.
Cette ingérence de la ministre de la Culture, c'est une atteinte évidemment à l'indépendance du CSA et c'est très mauvais augure pour tout projet à venir du mode de nomination des présidents de l'audiovisuel public.
Mode de nomination qui pourrait être réformé avant l'été, bien avant donc le vote d'une grande réforme de l'audiovisuel public annoncée pour la fin de l'année.
Alexandra Hacoun, le juge d'instruction Renaud Van Ruymbeek désigné pour enquêter sur l'affaire Richard Ferrand après l'information judiciaire ouverte la semaine dernière, notamment pour prise illégale d'intérêt. C'est le dossier du local acheté par sa compagne et loué aux mutuelles de Bretagne qu'il dirigeait. La Cour de justice de la République sur le point d'ouvrir une enquête contre Jean-Jacques Urvoas, cette fois enquête pour violation du secret professionnel. L'ex-garde des Sceaux est accusé d'avoir transmis des informations confidentielles au député Thierry Solaire sur une enquête qui le concernait.
Les constructeurs français de voitures sont en bonne forme.
Renault toujours en tête avec 3 760 000 autos vendues l'an dernier devant PSA, 3 600 000. Eux fabriquent des pièces pour les moteurs diesel et ils sont inquiets pour leur avenir à l'heure où ce moteur se meurt, lentement mais sûrement. Les ouvriers de l'usine Bosch d'Honnête-le-Château près de Rodez dans l'Aveyron reçus à Paris aujourd'hui. Bonsoir Manuel Ruffez.
Bonsoir.
Le site compte 1600 salariés et selon les syndicats, 3 à 800 d'entre eux sont menacés à court terme.
Oui, menacés si les investissements nécessaires ne sont pas au rendez-vous dans les semaines qui viennent et les représentants syndicaux en sont persuadés. Le site plus rentable serait alors condamné. Pascal Raffanet de la CFE-CGC.
La fermeture d'une usine comme celle de Rodez pour notre territoire serait à peu près le même sinistre que si Airbus venait à quitter la région toulousaine ou si PSA venait à abandonner la ville de Sochaux.
Alors ils sont venus, ces syndicalistes, dire aux représentants de Bercy qu'il fallait dans un premier temps convaincre les constructeurs automobiles français de passer commande à l'usine de Rodez. Julien Rull du syndicat Sud.
Il faut savoir qu'en Allemagne, les constructeurs automobiles que sont BMW et Mercedes exigent à Bosch que 40% de leur production soit réalisée en Allemagne. Si les constructeurs français demandaient que 30% des injecteurs soient réalisés à Rodez, ça pérenniserait le site pour au moins à l'horizon 2024.
Et ensuite que Bosch investisse pour diversifier l'activité du site, Yannick Anglares de la CGT.
Il faut savoir que le marché français pour Bosch, c'est le deuxième marché européen après l'Allemagne. Mais en termes d'investissement, on ne représente que 1% du total des investissements de Bosch dans le monde sur les trois dernières années.
Diversification dans l'aéronautique, le médical ou encore d'autres types de pièces automobiles, affirment les représentants syndicaux reçus aujourd'hui à Bercy.
Et la direction de Bosch doit venir sur place dans 10 jours pour faire des annonces. Merci Emmanuel Ruffez. La Cour des comptes très inquiète par le Grand Paris Express, le nouveau réseau de métro automatique destiné à relier les départements de la Petite Couronne entre eux. La Cour redoute une dérive continuelle des coûts, 12 milliards d'euros de plus que prévu, et doute que le calendrier d'une ouverture partielle du réseau pour les Jeux Olympiques de 2024 soit tenu. Les écoles seront fermées demain en Corse. On attend des rafales de vent à 200 km/h. Les prévisions météo à la fin du journal.
Encore plus de questions que de réponses en Californie.
Après la découverte de 13 frères et sœurs séquestrés par leurs parents, des enfants âgés de 2 à 29 ans, sales, maigres, enfermés, voire attachés, c'est l'une des sœurs de 17 ans qui a réussi à s'échapper et à prévenir la police dans cette maison de l'horreur à 2 heures au sud-est de Los Angeles. Les parents sont sous les verrous pour torture et mise en danger d'enfants. Et le shérif de la ville doit faire le point sur l'enquête dans les minutes qui viennent. Bonsoir Marco Voltaire.
Bonsoir.
On attend évidemment beaucoup de réponses à beaucoup de questions.
Oui, le shérif du Riverside County doit prendre la parole d'un instant à l'autre. Il est 10h du matin en Californie et ça fait bientôt 24 heures qu'il n'y a pas eu de nouvelles informations de la police, alors qu'évidemment les questions ne manquent pas. À commencer par la durée de cette séquestration, on ne sait pas en fait combien de temps ces 13 enfants vivaient dans les conditions dans lesquelles ils ont été retrouvés, attachés à leur lit, affamés dans le noir. Des voisins racontent qu'ils ont vu, même si très rarement, hein, les enfants sortir de chez eux. Sur la page Facebook du couple, il y a des photos de famille plutôt normales. On y voit un mariage posté l'an dernier. Il y a des photos plus anciennes à Disneyland. Les enfants y arborent tous de larges sourires. Ensuite, les grands-parents assurent que les enfants étaient scolarisés à la maison. Or, ils ont entre 2 et 29 ans, donc que dire des plus âgés. Enfin, la maison familiale est enregistrée comme étant l'adresse d'une école privée et dont le proviseur serait le père. David Turpin met l'information. Eh bien, s'arrête là. Vous voyez donc beaucoup de zones d'ombre, alors que le couple Turpin a été incarcéré pour torture et mise en danger d'enfants.
Et on attend donc les précisions du shérif. Merci Marco Voltaire en direct de New York pour Inter. La réponse un peu tardive de Kim Jong-un à Donald Trump sur le bouton nucléaire, vous vous souvenez, beaucoup plus gros que le sien. Des fanfaronnades, le spasme d'un dément, l'aboiement d'un chien enragé, répond le leader nord-coréen au président américain. Le tennis à Melbourne, gros morceau pour Gaël Monfils au deuxième tour. Novak Djokovic, qu'il n'a jamais battu en 14 matchs. Caroline Garcia, Richard Gasquet, Julien Bento sont aussi qualifiés, tout comme Roger Federer. Élimination en revanche de Jérémy Chardy, de Benoît Paire et de Kristina Mladenovic. 15e défaite de suite pour la Française, 11e mondiale. On termine avec la fin d'une idée reçue qui avait la vie dure. Les Russes boivent beaucoup, et notamment beaucoup de vodka. Alors la vodka est toujours la boisson nationale, mais ils en boivent beaucoup moins. Bonsoir Claude Brouillot.
Bonsoir.
Correspondant d'Inter à Moscou. D'après l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, les Russes n'ont jamais consommé aussi peu d'alcool depuis la chute de l'URSS.
Oui, et tout part de Vladimir Poutine, encore une fois. Dès son deuxième mandat, eh bien, le cadre restrictif est planté. Fin de la vente d'alcool à 23h à Moscou et même 22h dans les régions. Les jeunes acheteurs doivent présenter obligatoirement leur papier d'identité aux caisses des magasins pour prouver qu'ils ont plus de 18 ans. Tolérance zéro au volant, précisément 0 g d'alcool par litre de sang pour les conducteurs contrôlés. Autant de mesures qui expliquent en partie cette baisse de la consommation d'alcool chez les Russes. À cela, il faut ajouter le contexte de crise, avec notamment la hausse des prix pour la boisson nationale, la vodka, vous l'avez dit, mais aussi pour la bière. Il reste toutefois un effet pervers dans ce constat, car parmi les 20 millions de Russes qui vivent avec moins de 180 euros par mois, certains, faute de moyens, se sont mis à consommer des dérivés parfois très dangereux. Il y a un peu plus d'un an, à Irkoutsk, en Sibérie, 71 personnes sont mortes pour avoir bu une huile de bain trafiquée au méthanol.
Évidemment, ça n'aide pas. Merci Claude Brouillot. Ce qui aide aussi peut-être à faire baisser la consommation d'alcool, c'est que Vladimir Poutine n'en boit pas du tout, m'a dit Claude Brouillot tout à l'heure. Ses invités ressortent souvent en titubant du Kremlin, mais lui, toujours sobre, comme Alain Passerelle.
Voilà, mais décidément.
C'est un journal hommage.
Non, mais totalement, c'est son anniversaire ou quoi. Allez, merci Sébastien pour le journal. On se retrouve demain, bien sûr. Le 18-20 continue avec le téléphone. Ça, nous sommes en partenariat avec France 2 ce soir, qui consacre sa soirée, comme nous, à partir de 23h15 sur France 2. Un film d'abord sur ces femmes de retour de Syrie, leurs enfants, et puis un débat également qui aura lieu. Allez, restez avec nous. Voici la météo.
La météo avec Via Santé, la mutuelle d'AG2R La Mondiale. Via Santé, la mutuelle qui aide ses adhérents à prendre soin de leur santé. Et vous, comment ça va ?
Élodie Calac pour la météo demain. Attention au vent ce soir aussi d'ailleurs.
Oui, des vents très forts autour de la Méditerranée. Vigilance orange pour le Var, les Alpes-Maritimes, les deux départements corses. Des rafales jusqu'à 120-140 km à l'heure. En Corse, on pourrait dépasser les 150, près de 200 même attendus au Cap Corse. Ça baissera un peu demain après-midi. Attention aussi en montagne, on attend des rafales jusqu'à 130 km à l'heure sur les crêtes des Alpes. Il neigera en bonne quantité. Le risque d'avalanche sera fort. Et puis ailleurs, beaucoup de vent également.
Et sinon, encore des averses. Hein.
Oui, de la pluie, des giboulées, de la neige à basse altitude pour le matin. Ça s'arrangera un peu l'après-midi. Les averses se décaleront en s'espaçant. Elles persisteront de la Lorraine et de l'Alsace vers la Franche-Comté, le nord des Alpes. Et puis plus à l'ouest, on retrouvera de bons moments de soleil avec des températures un peu plus fraîches, 5 à 10 degrés jusqu'à 15 pour le sud-est.
Merci beaucoup, Élodie Calac de Météo France.